Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique au micro, Idrissa Sedoudia, bonjour. L'armée américaine s'est totalement retirée d'Afghanistan dans la nuit de lundi à mardi, un départ salué par des tirs victorieux à Kaboul et des critiques véhémentes à Washington qui met fin à 20 ans de guerre contre les talibans, l'ennemi désormais maître du pays. Leur principal porte-parole, Zabihullah Mujahid, a dit qu'ils veulent de bonnes relations diplomatiques avec les États-Unis, tout en qualifiant le départ des Américains, je cite, de victoire de tous les Afghans et de grandes leçons pour tous les autres envahisseurs. Fin de citation. Un pont aérien gigantesque a permis depuis le 14 août aux États-Unis et à leurs alliés d'évacuer plus de 123 000 civils de l'aéroport, selon le Pentagone. Et le 26 août, un attentat suicide revendiqué par l'État islamique au Khorasan a fait plus d'une centaine de morts, dont 13 militaires américains aux abords de l'aéroport, entraînant des représailles américaines. Le Pentagone a reconnu n'avoir pas pu faire sortir d'Afghanistan autant de personnes que voulu. Le chef de la minorité républicaine à la Chambre basse, Kevin McCarthy, a accusé M. Biden d'avoir abandonné, je cite, « des Américains à la merci de terroristes ». Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a lui assuré hier soir que Washington continuera à aider tous les Américains qui veulent quitter l'Afghanistan. Les États-Unis, a-t-il ajouté, travailleront avec les talibans s'ils tiennent leurs engagements. 200 à 200 Américains seraient encore en Afghanistan, selon M. Blinken. Un prêtre camerounais a été enlevé dimanche, selon son diocèse, par des séparatistes dans le sud-ouest du Cameroun, une des deux régions anglophones en crise. Les ravisseurs de Mgr Julius Akbor Toko, vicaire général du diocèse de Mamfé, auraient exigé une rançon de plus de 20 millions de francs CFA pour sa libération. Le chef de la junte militaire tchadienne, Mahamat Idriss Déby Itno, a rejeté l'idée d'un retour au pays des mercenaires tchadiens présents en Libye aux côtés des forces rivales du gouvernement intérimaire ou du maréchal Khalifa Haftar, a annoncé la présidence. En avril, des rebelles venus de Libye avaient mené une offensive sur N'Djamena et le président tchadien Idriss Déby Itno avait été tué en montant au front avec son armée pour les stopper. Plus de 40 organisations tunisiennes de défense des droits humains ont annoncé ce lundi que la Tunisie a livré Slimane Bouhafs, un réfugié politique, aux autorités de son pays, accusant Tunis de violer ses engagements internationaux. Ce militant politique condamné en 2016 à 5 ans de prison dans son pays pour insulte à l'islam, milite aussi au sein du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, une organisation indépendantiste qualifiée de terroriste par Alger. Covid-19. Alors que le variant Delta fait des ravages, des scientifiques sud-africains surveillent un nouveau variant du coronavirus connu sous le nom de C12, possédant un taux de mutation inhabituel et dont la fréquence a graduellement augmenté ces derniers mois. C'est ce qu'a indiqué lundi l'Institut national des maladies transmissibles d'Afrique du Sud. Le Congo a reçu sa première livraison de vaccins dans le cadre du mécanisme COVAX, avec la réception de plus de 300 000 doses données par les États-Unis. Parallèlement, la France va envoyer 10 millions de doses de vaccins AstraZeneca et Pfizer à l'Afrique à travers l'Union africaine, a annoncé hier l'Élysée. Par ailleurs, l'OMS redoute que la pandémie de COVID-19 fasse 236 000 morts supplémentaires en Europe d'ici le 1er décembre, se déclarant lundi préoccupé par la récente stagnation du rythme des vaccinations sur le continent. Électricité coupée, rue inondée. Toit arraché, les habitants de la Louisiane mesuraient ce lundi l'ampleur des dégâts causés par le passage de l'ouragan Ida, son gouverneur les qualifiant de catastrophiques. Au moins 2 personnes ont été tuées. La suite de nos informations. Au Mali, les Nations Unies s'inquiètent de l'aggravation des violences contre les civils. Dans le centre du pays, les djihadistes imposent également leur version de l'islam grâce à des accords dits de non-agression ou de réconciliation. Précision de Claire Morin-Gibourg.
Les exécutions sommaires et enlèvements sont en forte augmentation, alerte la division des droits de l'homme de la MINUSMA dans son rapport trimestriel. Entre avril et juin, au moins 527 civils ont été tués, blessés ou enlevés, soit une augmentation de plus de 25% par rapport au premier trimestre. 54% des cas ont été perpétrés par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et d'autres organisations djihadistes, comme le groupe État islamique au Grand Sahara, indique l'ONU. L'emprise territoriale du GSIM s'est accentuée dans le centre du Mali avec un glissement notable avec leurs activités en direction de Ségou et Sikasso le long de la frontière avec le Burkina Faso, souligne la MINUSMA. Certains habitants des zones contrôlées par ces groupes djihadistes ont conclu des accords au prix du versement de la zakat, un impôt sur le bétail, les commerces et les récoltes, et de l'obligation du port du voile. 5-4-3-2-1-0, et de l'obligation du port du voile pour les femmes et les filles, selon le rapport. D'autre part, les ministres 5-4-3-2-1-0. D'autre part, les milices et groupes d'autodéfense, comme Danam Ambassagou, groupe de chasseurs traditionnels Dogon, sont tenus pour responsables de 20% des exactions. L'armée malienne et les forces internationales comptent pour respectivement 9 et 6% du total de civils victimes d'exactions.
Des responsables du nord du Nigeria ont réclamé l'aide du gouvernement fédéral après la reddition ces derniers mois de 3000 membres de Boko Haram et leurs familles. Ils demandent aussi l'amnistie. Abdourahmane Dia.
Parmi ces 3000 personnes figurent notamment des enfants de membres du groupe et des agriculteurs en relais de force pour travailler dans les zones tenues par Boko Haram, selon le gouverneur de l'État de Borno. Babagana Zuloum a affirmé qu'il allait rencontrer à nouveau le président Muhammadu Buhari pour étudier les moyens de s'occuper de ceux qui se sont rendus. Les femmes et les enfants, les agriculteurs qui n'ont rien fait doivent être pris en considération et libérés après un processus en bonne et due forme, a expliqué le gouverneur. Les autres doivent être traités selon les lois et règlements, a-t-il dit. De nombreux habitants de son État s'opposent à toute amnistie pour les membres de Boko Haram. Borno est au cœur du conflit. Près de 40 000 personnes ont été tuées et 2 millions déplacées dans cet État. L'armée nigériane affirme que ces redditions démontrent son succès. Elles interviennent après la mort en mai dernier du chef de Boko Haram, Aboubakar Shekau, lors de combats avec des rivaux du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. L'armée nigériane gère un programme de déradicalisation pour les djihadistes repentis, mais le principal centre d'hébergement de ce programme ne peut accueillir que 700 personnes.
L'essence au plomb n'est plus utilisée dans aucun pays du monde. C'est ce qu'a annoncé hier le Programme des Nations Unies pour l'environnement. L'ONU salue une étape majeure qui permettra de sauver chaque année plus de 1,2 million de vies et d'économiser plus de 2 400 milliards de dollars chaque Aristide.
L'essence au plomb est donc éradiquée de la planète. Près d'un siècle après les premiers avertissements sur ses effets toxiques, l'Algérie, dernier pays à utiliser ce carburant, a épuisé ses stocks le mois dernier, selon le PNUE. L'application réussie de l'interdiction de l'essence au plomb constitue une étape majeure pour la santé dans le monde et pour notre environnement, s'est félicité Inger Andersen de ce programme onusien dont le siège est situé dans la capitale Kenya. À Nairobi. Pour Tandile Chinyavanu, en charge des campagnes de Greenpeace sur le climat et l'énergie pour l'Afrique, la disparition de ce carburant marque la fin d'une ère toxique. Cela montre clairement que si nous pouvons éliminer progressivement l'un des combustibles polluants les plus dangereux du XXe siècle, nous pouvons éliminer absolument tous les combustibles fossiles, ajoute-t-elle. Il y a encore 20 ans, plus d'une centaine de pays utiliser l'essence au plomb, malgré des études scientifiques la pointant comme cause de mort prématurée, d'effets néfastes sur la santé et de pollution de l'air et des sols.
La Minute Éco, Nathalie Barge.
La République du Congo a signé un accord avec la Banque de développement des États de l'Afrique centrale pour un financement de près de 33 milliards de francs CFA. Les fonds serviront à financer un tronçon routier du corridor Brazzaville-Libreville. La route en construction permettra aux agriculteurs d'évacuer leur production vers les centres de consommation. En Côte d'Ivoire, le résultat net de la société des caoutchoucs de Grand Bérébi a progressé de près de 4 milliards de francs CFA au premier semestre 2021 par rapport à la même période en 2020, selon la direction de l'entreprise. Il est passé de 3,683 milliards à 7,537 milliards. Le chiffre d'affaires s'est établi à plus de 40 milliards de francs CFA, soit une hausse de 20% par rapport à l'an dernier. La chef de cabinet du PDG d'Orange Moyen-Orient-Afrique, Néné Maïga, a été nommée à la tête d'Orange au Botswana, indique la presse malienne. Cette analyste d'affaires de 34 ans, diplômée en sciences de gestion et innovation numérique pour les entreprises, a été la responsable d'Orange Finance Mali et gestionnaire de la distribution au sein du groupe Sonatel.
Merci Nathalie. Et maintenant les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Le Rwanda est out de l'Afrobasket qui l'organise. Le pays hôte a été battu par la Guinée 72 à 68. Les Guinéens se qualifient ainsi pour les quarts de finale. Le Sili National y affrontera la Côte d'Ivoire. Toujours hier, les Angolais, 11 fois champions d'Afrique, ont battu les Égyptiens 62 à 70 et feront désormais face aux redoutables Sénégalais en quart de finale. On connaîtra ce soir les deux derniers qualifiés des quarts à l'issue des derniers matchs de barrage. Kenya, Soudan du Sud et Ouganda, Nigeria. La Tunisie, tenante du titre, qui a fini en tête du groupe B, sera opposée au vainqueur du match de barrage Kenya, Soudan du Sud. Et puis le Cap-Vert, premier du groupe A, jouera le dernier quart de finale face aux qualifiés du barrage Ouganda, Nigeria. Transfert en football, c'est aujourd'hui que se referme le mercato estival. Junior Onana a rejoint Bordeaux pour un contrat de 5 ans. Le milieu défensif camerounais de Lille, 21 ans, a fait ses débuts internationaux en octobre 2020 et a passé la saison dernière en prêt à l'équipe belge de Mouscron alors qu'elle était encore en première division. Si Lionel Messi au Paris Saint-Germain et Cristiano Ronaldo de retour à Manchester United sont les plus grosses stars du foot transférées cet été, ce n'est peut-être pas fini. Le Real Madrid ne lâche rien dans l'affaire Kylian Mbappé, mais pour le moment, rien ne semble suffire pour convaincre le Paris Saint-Germain de céder sa superstar. Une première offre de 160 millions d'euros n'était pas suffisante selon le directeur sportif Leonardo et la seconde proposition de 180 millions d'euros, bonus inclus, évoquée par la presse, reste a priori sans réponse pour l'instant. Les footballeuses et footballeurs de l'équipe nationale d'Irlande recevront désormais les mêmes salaires. L'annonce a été faite par la fédération irlandaise qui a précisé que l'égalité salariale sera instauré dès les rendez-vous internationaux de septembre, ajoutant que les primes de qualification au tournoi seraient également soumises à ce principe. Pour parvenir à cet accord, l'équipe masculine a accepté de diminuer le montant touché par les joueurs lors de chaque rencontre afin que la fédération utilise cette somme pour augmenter le salaire versé aux joueuses. C'est un grand jour pour le foot irlandais, s'est réjouie la capitaine de l'équipe féminine irlandaise, Cathy McCabe. L'Angleterre, le Brésil, l'Australie, la Norvège et la Nouvelle-Zélande font partie des pays qui se sont publiquement engagés à payer les joueurs et les joueuses de la même façon lors des matchs internationaux.
Merci, Yacouba. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, des doutes planent sur les échéances prévues en février 2022. Pour les uns, il faut proroger la transition en allant au-delà des 18 mois afin de résoudre les problèmes du pays. Pour les autres, surtout la classe politique dont certains sont déjà en pré-campagne, il faut le respect des accords de la CEDEAO et de la charte de la transition. Le point avec notre correspondante à Bamako, Mariam Kouyaté.
Le 27 février 2022, c'est la date prévue pour l'élection présidentielle et les législatives au Mali après le coup d'État d'août dernier. Ces dernières semaines, les Maliens sont divisés sur le sujet à cause de la situation actuelle du pays. Maître Ismaël Konaté, ancien ministre de la Justice.
Je doute que le peu de temps qui nous reste nous permette de restructurer l'État. Je ne dis pas de refonder l'État, de restructurer l'État. S'occuper simplement des réformes politiques, des réformes institutionnelles, des réformes constitutionnelles sont nécessaires pour que le Mali de demain soit. Parce qu'aucun homme politique, fût-il nouvellement élu, n'a été capable, en tout cas dans les générations qui se sont succédées, de régler cette question. Je doute que l'homme fort qui va naître puisse le faire.
Nombreuses sont des voix qui s'élèvent pour soutenir la prorogation de la transition au Mali. Souleymane Dembélé, président de l'association alternative citoyenne Malikoura M5-RFP.
On ne peut pas parler d'élection quand même sans sécuriser nos régions. Le Mali ne peut pas se limiter seulement à ses un tiers. Il faut voir, les deux tiers sont occupés par ces gens mal intentionnés. Donc, soutenons ce gouvernement pour qu'ils puissent maintenir la sécurité dans les régions du nord et du centre.
Selon Zoumana Ntidoumbia du parti RPM, le gouvernement n'a pas la volonté d'organiser les élections malgré le chronogramme établi depuis le mois d'avril.
Absolument rien n'est fait, en tout cas à l'heure actuelle, pour l'organisation et la préparation des élections. Aujourd'hui, on devrait trouver que le fichier électoral a été audité et aussi la révision exceptionnelle des listes était prévue pour le mois de juillet. Mais malheureusement, encore une fois, absolument rien n'est fait. Et donc sans élection, je ne pense pas qu'on puisse avoir le baromètre pour pouvoir évaluer les degrés de notre démocratie.
Le président de la transition, Assimi Goïta, qui a renversé l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, également sous la pression de la communauté internationale, doit impérativement rendre le pouvoir aux civils d'ici le 27 février 2022, une date qui fait débat aujourd'hui au Mali, qui subit des attaques multiples des djihadistes récurrentes dans le nord, le centre et l'est du pays. Mariam Kouyaté, Bamako, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Au Congo-Brazzaville, une grosse coupure d'électricité a frappé la capitale et les consommateurs n'ont pas eu de solution car depuis deux semaines, Brazzaville connaît une importante pénurie de carburant, ce qui rend inutiles les groupes électrogènes. La société de production d'électricité parle de la chute d'un pylône sur la ligne de transport du courant. Reportage d'Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
Dès 7h du matin dimanche, plusieurs quartiers de la capitale n'avaient plus d'électricité. Mais c'est dans la soirée que toute la ville est plongée dans l'obscurité jusqu'à ce lundi après-midi. Les hommes d'affaires sont aux abois. Et là, Dibril Boupaka est le patron de patrons, président de l'Union nationale des opérateurs économiques du Congo.
Et c'est un crément qu'à gagner dans les restaurants. Tout est maintenant bloqué en stand-by, dans les entreprises industrielles, mais les grandes menuiseries, rien ne marche. Les boulangeries, ça pose problème. Et cela fait que le secteur économique, secteur privé subit.
Les commerçants voient leurs affaires chuter en si peu de temps. Alphonse Ndongo, patron d'un restaurant, grève ses économies.
Et comme vous le savez, dans pratiquement toute la ville, il n'y a pas aussi de carburant pour pouvoir alimenter notre groupe électrogène. Tout cela parce que nous voudrions quand même garder l'essentiel de nos vivres dans une température tout à fait normale. Mais aussi, il faut accueillir nos clients. Donc c'est vraiment des dépenses inattendues, surtout en ces temps de crise.
De son côté, Patrick Mampouya, propriétaire d'un centre de formation en informatique où tout ne marche qu'avec l'électricité, tente des solutions à sa façon.
Là où est situé mon centre de formation, dès que j'ai ouvert le groupe électrogène, tout le quartier est venu pour charger son téléphone, c'est vraiment du n'importe quoi. On se demande, le Congo veut se développer, avec quelle électricité on va monter ces entreprises-là? J'ai vu, il n'y a pas longtemps, le Premier ministre qui est parti chercher des entrepreneurs en France, Oui, mais avec quelle électricité on va travailler?
Dans les rues de Brazzaville, les usagers du courant électrique grincent les dents.
Et tout ce qui nous reste, c'est d'aller dans différents marchés. Il y a quand même ceux qui ont des groupes électrogènes. Et c'est auprès d'eux qu'on essaie de charger nos téléphones. Et il faut donner 200 francs, il faut donner 300 francs. Et donc c'est une situation très triste.
C'est difficile, c'est dur vivre comme ça sans électricité. Et donc du coup, mon téléphone, je n'ai pas pu le charger.
C'est vraiment invivable. Donc pour rester connecté, j'étais contraint d'utiliser une énergie alternative. Donc j'ai un power bank qui me permet de charger mon téléphone quand il y a coupé d'électricité.
Officiellement, la société d'électricité explique qu'un pylône est tombé dans les environs de Pointe-Noire. Mais le problème peut également venir de la baisse des eaux qui impacte la production du courant électrique. Les Brazzavillois sont habitués aux coupures intempestives du courant. Mais cette fois-ci, la panne laisse pantois de nombreux usagers. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Lutte contre le coronavirus au Gabon. Le gouvernement, qui redoute une troisième vague de Covid-19, a lancé une campagne de vaccination itinérante à Libreville. Elle se tient dans les grands carrefours de la capitale gabonaise. Le but est de toucher les populations encore indécises. Reportage à Libreville de notre correspondant Ismaël Obiangze.
Pour cette campagne pilote, le gouvernement s'est offert les services des associations communautaires pour sensibiliser les populations sur l'importance de se faire vacciner. Steve Chinga, président de l'association Six Gabon.
Il faudrait que la population adhère à la campagne de vaccination afin que le Gabon retrouve sa stabilité d'avant.
Dans un pays où plus de la moitié de la population s'informe désormais via les réseaux sociaux très marqués par l'influence de fake news, l'opération de vaccination contre le Covid en cours à Libreville peine encore à mobiliser grand monde. Voix Abidine fait néanmoins partie de la centaine de candidats au vaccin présents ce matin sur le site du Carrefour Rio à Libreville.
Il ne faut pas suivre les intentions des réseaux sociaux. C'est très important pour nous et pour la santé de tout le monde. Il faut que chacun vienne se faire vacciner. C'est très important. Parce que plus tard, nous tous, ceux qui ne sont pas fait vacciner vont regretter plus tard. C'est plus important. Le gouvernement n'est pas pour nous demander de venir nous vacciner.
Entre le début de l'opération en mars dernier et mi-août, le comité national de vaccination indique que plus de 30 000 volontaires se sont présentés dans les différents sites pour recevoir le vaccin anti-Covid, dont 17 000 volontaires au total ayant reçu leur deuxième dose de vaccin. Des chiffres toujours pas assez convaincants pour dissuader les indécis comme Jean-Claude Mbombine.
Les Gabonais ont besoin d'être rassurés parce qu'ils sont sceptiques. Voilà. Et donc c'est au gouvernement de montrer le bon exemple. En administrant ce produit-là, ce vaccin-là, d'abord à eux qui sont au sommet de l'État.
Selon les autorités gabonaises, l'objectif recherché par la présente campagne est l'intensification de la vaccination communautaire conformément à la phase 4 du troisième axe stratégique du plan national de vaccination. Docteur Ehulu Laika est l'un des superviseurs de cette campagne de vaccination.
Le message que je porterai aujourd'hui à la population gabonaise, c'est que les sites de caravanes de vaccination sont des sites de proximité qui ont été mis en place pour faciliter la vaccination de tous les volontaires.
Ces derniers jours, le pays a enregistré 26 nouveaux cas positifs sur 5662 tests réalisés dans 7 des 9 provinces du pays. Le comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à coronavirus au Gabon faisait état le 25 juin dernier d'un taux de positivité de 0,4%. Malgré cette tendance baissière, le gouvernement se dit prêt à durcir le dispositif sanitaire actuel pour sauver des vies. Libreville, Ismaël Obiangze pour VO Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la fuite des cerveaux africains. Alors que le secteur de la santé est paralysé au Nigeria par une grève de plusieurs semaines, des centaines de médecins ont participé récemment à Abuja à un séminaire de recrutement organisé par l'Arabie Saoudite. Récemment, on évoquait cette réalité en Tunisie où les jeunes médecins aspirent à partir à cause des mauvaises conditions dans leur pays. Pourquoi l'Afrique n'arrive pas à retenir ces milliers de cadres qui quittent chaque année le continent où ils ont été formés? Nous allons en débattre ce jeudi à 19h, temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Dakar est envahi par les motos Jakarta des deux roues, jadis utilisées dans les villes de l'intérieur du Sénégal comme mototaxis. Ces engins sont de plus en plus présents dans la capitale sénégalaise où ils sont souvent impliqués dans des accidents et des cas d'agression entre autres. Notre correspondant à Dakar, Seydina Abagué.
Très présents dans les régions, les motos Jakarta envahissent maintenant Dakar où elles grouillent dans la circulation. Ces deux roues servent de mototaxi pour les uns et de moyen de livraison pour d'autres. Communément appelées Jakarta, ces motos sont souvent impliquées dans des accidents ou encore des cas d'agression et de vol à l'arraché. Une situation réelle mais pas générale d'après Abou Sow, conducteur de Jakarta.
Non,
il ne faut pas généraliser. Il est vrai qu'il y a des cas de vol signalés. Mais en général, les conducteurs de motos sont très sérieux. Cependant, il faut avouer que certains achètent un scooter uniquement pour arracher les biens des gens. Je veux juste qu'on ne généralise pas.
Amadou Diop, ancien conducteur de Jakarta, dispose aujourd'hui d'un parc de scooters et d'un atelier mécanique. Pour lui, la conjoncture pousse certains jeunes à la délinquance.
Les temps sont durs. De nombreux jeunes ont des besoins mais ne disposent pas de moyens. Alors, ils optent pour une voie facile. Le vol et le scooter facilitent les choses avec sa rapidité et sa mobilité qui lui permet de se fondre entre les voitures.
Les Jakarta sont aussi utilisés comme mototaxi. Bien que la pratique soit interdite dans la capitale, beaucoup de citoyens y font recours. Salif Fall estime que dans chaque corporation, il y a des brebis galeuses.
Dans tous les métiers du monde, on voit des gens qui transgressent les règles. Parallèlement, on voit aussi des conducteurs de motos très professionnels.
On accuse souvent les conducteurs de motos d'être à l'origine de nombreux accidents de la circulation. Papa Sambassi, chauffeur à la retraite, fait un petit rappel des béabas du métier.
Aucun écart n'est permis pour les conducteurs de motos et de voitures, car chaque dérive a un effet néfaste direct sur le client et le propriétaire. Quand on est à bord d'un scooter, il faut s'appliquer. C'est la règle d'or du métier. Le code nous l'exige.
Avec les embouteillages monstres à Dakar, beaucoup ont recours au service des mototaxis pour se déplacer. D'autres les utilisent pour la livraison de biens et marchandises, mais certains conducteurs sont accusés de vol ou d'agression. Comment résoudre cette équation? La réponse des autorités est la gratuité des frais d'immatriculation pour toutes les motos. Pour elles, avoir des deux roues en règle permettra une meilleure régulation du secteur. Seydina Abagué à Dakar pour VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est tout pour cette émission matinale du Monde d'aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seydoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.